grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons rencontrer Sacha Zenko. Et Sacha Zenko est un Rom français. Comment ça, allez-vous me dire? Un Rom français? Mais on a entendu dire il n'y a pas très longtemps que les Roms ne faisaient rien pour s'intégrer. Eh ben oui, figurez-vous que le grand-père de Sacha est arrivé en France en 1912. Écoutez plutôt Sacha qui va nous raconter tout ça. Bien bonjour, je suis en face de Sacha. Alors Sacha, ça fait des mois que je le traque. La première fois que je l'ai vu, c'était à la Roma Pride, au mois d'octobre, où on me l'a présenté. Je devais l'interviewer au Sainte-Marie-de-la-Mer, où je l'ai vu passer. Je me suis précipité sur lui pour lui dire « Il faut absolument que tu m'accordes une interview. » Et là, Je suis à Douarnenez et au bonheur, j'arrive à l'attraper. Bonjour Sacha.
Bonjour. Et comme on dit dans ces cas-là, tout arrive à point à qui sait attendre. Alors, pour résumer en quelques secondes, voire quelques minutes, qui je suis, pourquoi je suis, quel est mon destin, quelle est ma vocation en ce bas monde. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis Sacha Zanko, je suis Rome. Je suis Rome Kelderach. C'est une particularité dans le groupe, c'est que nous sommes chaudronniers. Et donc nos aïeux et nos ancêtres et nos grands-pères étaient chaudronniers de père en fils depuis des générations, depuis la nuit des temps. Et donc étameur, c'est aussi faire un apport d'étain dans les récipients culinaires. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus exercer ce type de métier qui est parti en peau de chagrin, comme on dit, c'est particulièrement. Donc nous sommes adaptés par rapport au pays où nous sommes, donc en France en l'occurrence, et plus précisément dans le Var, puisque moi je suis de Toulon, et je suis chauffeur poids lourd. J'ai été maçon, hein, banneur, maçon, tout ça. Et puis vers l'âge de 18 ans, dans un quartier où nous étions dans une cité transit, puisque transbahuté de bidonville en cité transit pour faire comme tout le monde, quoi. La commune de Toulon a voulu éradiquer le bidonville de Toulon. Donc nous sommes retrouvés dans une cité transit avec un mixage de personnes d'origines différentes, à savoir du Maghreb. Hein. Donc ça c'était dans les années début 70, quoi. Et puis, comme on se côtoyait, qu'il y avait une bonne entente, on s'est dit pourquoi pas créer une association de jeunes sur le lieu. Donc, on s'est mis à plusieurs. Et puis, comme j'avais ma majorité, je suis rentré dans le composite de la première association de cette vie qui n'est encore pas finie. Et j'espère qu'elle me sera donnée de la vivre passionnément. Avec Pascaline, avec qui je partage au jour d'aujourd'hui nos vies, chacun mutuellement, quoi. Et donc, on a créé la première association qui s'appelait les jeunes de l'Égoutier, puisque la petite rivière qui coulait au milieu de tout ça, c'était l'Égoutier. En fond, vous avez la musique des Roms tziganes, on va dire, ou des gens du pays de l'Est, et c'est très, très accompagnatif. Voilà. Donc, compte tenu des péripéties, des rencontres et des multitudes de volonté des uns et des autres, nous nous avons abordé la spécificité, notre propre spécificité, la méconnaissance ou la non-reconnaissance de qui nous étions, a fait qu'il a fallu qu'on se mette en avant. Comme je dis souvent, j'aime pas que les gens me reconnaissent de ma différence, mais je fais valoir ma différence, qui est le propre de tout à chacun. Et donc, d'une autre association où j'ai été tour à tour membre de conseil d'administration, puis arrivé à vice-président, j'en me suis battu pour vouloir être le président de cette association-là, qui était en fait gérée par des gadgets et qui n'ont pas su mieux que de dissoudre cette association qui avait son droit de parole sur la région. Et malheureusement, en 93, c'était Vartzigan. Elle n'a plus eu raison d'être, compte tenu des manques de financement. Et puis par la suite, récemment, là, compte tenu que cette même association était sur une aire d'accueil à Toulon, il s'est trouvé un drame qui était dû en fait pour laisser pour compte, quoi. C'était un ghetto qui s'amplifiait de personnes et la proximité des uns et des autres, le mal-vivre, hein, a fait qu'un jour, la confrontation de deux familles a vu la mort de trois personnes. Donc, le père et le fils ont été condamnés à des peines de 20 ans, et ça n'a pas pour autant fait revenir ceux qui étaient partis. Alors, c'est un côté triste de l'histoire, parce que on croit, ou on se dit, ou on se donne le droit de penser que les associations n'ont pas toutes leurs besoins en lieu et place. Mais malheureusement, quand on voit de telles situations, de tels drames, on se dit si j'aurais été là, si on aurait pu véhiculer ou canaliser une certaine tension, voire la dénoncer, hein, c'est pas grave de le dire. Donc j'ai cheminé au travers d'associations et puis j'ai créé mon association en 89. Et par rapport aux gens qui étaient présents, nous l'avons choisi le nom, parce que le nom de l'association, qui est Tchachipen, qui veut dire vérité, authenticité en romani et en sanskrit. Le sanskrit étant la langue comparative à celle du latin, qui n'est pas employée d'une manière courante en Inde. Néanmoins, elle fait partie de notre langage. Alors bien évidemment, nous sommes un peuple errant en exode qui cherche son avenir au bout de l'horizon. Et puis quand on a atteint cet horizon, je crois que le point d'horizon qu'on avait visuellement vu auparavant, on essaie de voir l'autre bout de l'horizon qui est encore plus loin. Et donc c'est comme ça que j'ai les frères et sœurs de mon grand-père qui est arrivé en 1912 à Paris au jardin d'acclimatation pour y faire des représentations artistiques en tant que danseur de haut niveau. Donc pour vous donner un peu la caractéristique des capacités de mon grand-père, il dansait avec des genouillères en cuir. Donc il dansait sur les genoux, il sautait en l'air en grand écart et il touchait l'extrémité de ses pieds avec ses mains. Donc danseur, chanteur, musicien bien évidemment. Puis cet aspect économique qu'ils avaient de tradition a fait que la musique est belle, a fait que nous avons pu trouver un tissu au sein même de la société française. Et donc de campements en toile de tente et de toile de tente en roulotte, de roulotte en caravane et de caravale, en bidonville, hein, puisqu'on a connu le bidonville, malheureusement, on a connu la cité transit, de cité transit en HLM, de cité d'HLM en pavillon. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans un pavillon que j'ai acquis. Hein, c'est pas rien de le dire, parce qu'on peut penser qu'il n'existe que des tziganes pauvres. Ben non, moi je suis un tzigane bourgeois et fier de l'être. J'ai aucun scrupule, aucun complexe. Et donc, au jour d'aujourd'hui, mes enfants ont des CAP, des BEP, ils sont dans le tissu économique comme tout à chacun, on ne fait pas de particularité ni de référence à sa communauté. Chacun doit être sur le même palier avec les chances qui lui sont données par rapport à toute l'instruction qu'il a pu recevoir et l'éducation des parents. Hein. Donc ce que je revendique justement, c'est au travers de l'instruction, de la santé, de l'emploi, c'est que chacun puisse pouvoir s'exprimer dans ces domaines pour enfin pouvoir avoir la faculté de mettre en avant sa culture, son identité, sa particularité, son authenticité. Et c'est un cheminement, c'est des batailles, c'est auprès des ministères, des influences. Alors je suis tour à tour du fait d'avoir été président de l'association Tchachipen. Ça nous a amené à rencontrer d'autres présidents d'associations. Et nous sommes au jour d'aujourd'hui dans une fédération d'associations qui s'appelle l'Union française des associations tziganes, dont Alain Domas est le président. Et ne sont dans cette association que les associations présidées par des gens de la communauté, issus de la communauté. Et nous sommes une soixantaine d'associations, ce qui nous a donné en valeur d'écoute la possibilité d'être et d'avoir été reconnu en suffisamment représentatif sur le territoire français au Forum européen Rome et gens du voyage à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Donc nous siégeons et là nous avons une session plénière en début septembre, laquelle session plénière réunit sur les 77 pays européens, 47 pays représentatifs ou représentés par la communauté rom, tzigane et sinti, kale, voire voyageurs. Donc tout ça c'est pour dire que il y a eu une amplitude de reconnaissance et un investissement de personnes au travers des carences administratives du gouvernement, parce que toujours sur désignés comme des nomades, dès 1912 justement, il a été créé le carnet anthropométrique qui a été une tâche énorme, hein, une discrimination, une stigmatisation du peuple rom, désignant ce peuple-là tel des nomades. Alors, tous ceux qui se déplacent n'étaient pas désignés comme nomades, mais le fait d'être issus de l'ethnie tzigane, on nous a stigmatisés, on nous a repérés, on nous a recensés, voire, on nous a fichiés même. Et donc, toute personne circulant sur le territoire français était en obligation d'avoir ce carnet anthropométrique qui prenait la taille, les différentes mensurations, la photo de face et de profil tel un bandit de grand chemin. Les enfants en bas âge étaient répertoriés aussi. Et donc le numéro qui était sur le carnet devait être apposé à l'arrière de la roulotte tirée par les chevaux à l'époque. Et donc sous le gouvernement de Gaulle, après les événements de 68, est sorti, est-ce que ça a eu une influence, le carnet de circulation qui a mis fin au carnet anthropométrique, qui lui-même était encore une autre gageure. Hein. C'était un document français établi pour des Français à l'intérieur même du territoire français qui ne pouvait permettre la circulation hors pays. Et des fois, même au jour d'aujourd'hui, des gens qui, depuis des décennies, ce carnet existe, n'en connaissent pas l'existence. Et même l'administration, des fois, se refuse à le prendre en considération dans la poste ou dans des banques parce qu'ils considèrent que ce n'est pas une pièce d'identité. Alors qu'il y a une photo, les empreintes, la photo de la personne, sa filiation, tout ça. Et bien, quand bien même tout ça existe et que c'est un tampon de la France, hein, avec liberté, égalité, fraternité, le slogan auquel nous on revendique, hein, c'est pas, je ne minimise pas.
bien qu'il y ait effectivement l'égalité des citoyens français quand même.
Ben oui, c'est un paradoxe. C'est tellement paradoxal que on est obligé de devoir s'affirmer en tant qu'être français. Alors nous sommes français à part entière, mais on veut surtout pas être français à part entière, comment dire, entièrement à part. Voilà. Et quoi dire d'autre?
Je vais tomber sur des questions un peu plus personnelles.
Oui, je t'écoute.
Tu disais tout à l'heure que tu avais une belle maison, finalement.
Oui.
Et est-ce que tu voyages encore?
Je voyage au travers des festivités telles que ce festival. Je voyage parce qu'on est tous amenés à rencontrer sa famille. On se déplace puisqu'on en voyage. Parce que même ceux qui se disent être du voyage, c'est quoi qui fait qu'ils sont voyageurs? Parce qu'ils vivent dans une caravane. Et donc ils se déplacent d'un point à un autre, souvent d'une aire d'accueil à une autre. Et malheureusement, ces aires d'accueil, trop souvent mal choisies dans leur environnement, auprès des déchetteries, auprès des stations d'épuration, auprès de l'autoroute ou de la voie de chemin de fer, et puis dans des contextes, voire des zones nocives, polluées, Céveso, aussi, ça existe. Alors j'aimerais que l'auditoire puisse-t-il être des élus, puisse réfléchir mieux et être en concertation avec les intéressés pour que ça ne se représente pas, comme disent nos frères juifs, plus jamais ça, quoi. Donc, servons-nous des mauvaises leçons de nos pères de manière à ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alors, il y a le stationnement qui est, on va dire, répertorié, mais pas suffisamment, puisque des chemins départementaux dans lesquels il est préconisé, après études, multitudes de possibilités par rapport aux obligations des mairies, des villes qui ont plus de 5000 habitants, auxquels ils sont eux-mêmes hors la loi, puisqu'ils n'ont pas su, ou n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, on peut mettre beaucoup de verbes comme ça derrière, créer l'aire d'accueil qui permettrait à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des gens qui sont sur le voyage d'avoir une accessibilité d'une manière décente sur un lieu où on peut trouver l'eau, l'électricité, le strict minimum, quoi, pouvoir se doucher et ainsi de suite, pour ne pas avoir à reprocher aux gens du voyage, entre guillemets, d'être sales et ne pas savoir gérer leurs détritus, les déchets. Au jour d'aujourd'hui, il s'avère qu'il y a de l'ordre de 15 à 20 000 Roms, Roumains, voire Bulgares, sur le territoire français. Et pour ça, on focalise, les médias focalisent sur ce nombre, on va dire presque quasiment insignifiant, si on ne mettrait pas trop en avant l'image de misérabilisme que les Roms vivent sur le territoire français, ne leur donnant pas les moyens de pouvoir s'installer dans des conditions correctes. Alors quelquefois il y a des squats dans lesquels malheureusement n'ayant pas toutes les commodités, les fluides électriques et eau, il s'avère que les détritus et le reste font des odeurs nauséabondes, comme l'a si bien annoncé et malheureusement notre concitoyen Jean-Marie Le Pen, qui lui-même avec d'autres se sont donné la main. Il y a tout un chaînon de menteurs élus qui disent en fait, ils pointent le point de l'instant négatif qui est mis en évidence par les médias, bien évidemment aussi. Et donc, pour ne pas les citer, du style notre Christian Sarkozy, qui a été au gouvernement, et qui
Nicolas Sarkozy et Christian Estrosi.
C'est du pareil au même, parce que lieutenant du premier et du ministre de l'autre, voilà, ils se sont... Et voilà, c'est un pléonasme.
Sans compter monsieur le maire de Cholet
bien
qui
sûr,
s'est
mais
permis
tout ça,
de dire...
Voilà, que Nicolas n'aurait pas fini son travail.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons Sacha la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter la tchodroom et comme d'habitude, je vais vous lire des textes sur le générique de fin de l'émission. Aujourd'hui, ce sera des textes de Santino Spinelli, qui est un cinto italien. Le premier texte a pour titre Ziganité. Un astre joli dans le monde immense prend tous les humains. Ma mère s'est arrêtée dans les nuits obscures. Elle m'a conduit, écarquillé par les routes noires du monde. Une roue de la roulotte antique a gardé mon sommeil et la paille par-dessous m'assurait la chaleur. Un fouet dans les mains, j'ai pris la route et j'ai parcouru terre et ciel parmi peuples et peuples, cœur et cœur, souffrance et mort et mille épreuves. Une femme est ma famille, elle qui m'a élevé lorsque j'étais petit, elle qui m'a fait manger lorsque j'avais faim, elle qui m'a couvert lorsque j'avais chaud, et elle m'a donné des fils lorsque je cherchais l'amour. Ce cœur que je sens en moi, il marche avec force dans cette maison qui maintenant me transporte. Telle est ma ziganité que les années n'ont pas pu, ne pourront jamais m'ôter. Le deuxième texte a pour titre « Sans cité ». D'où viens-tu, vieux Rome ? Pourquoi es-tu venu ici ? Ma terre, hélas, n'est plus. J'ai dû la quitter il y a bien des années. Les chevaux sont exténués dans le froid de cette nuit obscure. Ils ne marchent plus comme autrefois, mais leur oreille entend encore le vent. Où vas-tu, jeune homme, Rome ? Demain est un autre jour et une autre route m'attend. Va, tu es notre demain. Chante encore dans la nuit noire cette chanson qui ignore les remparts. L'aube est toute proche et le cœur chemine et le Rome va. Thank you. Le dernier texte a pour titre « Il me souvient d'un petit enfant ». Nu-pieds sur la terre chaude, près de la mer, face au soleil qui s'y reflète, par-dessus ma tête menue, pendue aux longues jupes de ma mère, j'allais mendiant. La lumière du soleil noircissait mon visage. Il me fallait gagner de quoi manger. La nuit tombée, nous rentrions, éreintés, affamés par la longue route. Je m'endormais sous la tente sur la paillasse. Ma mère posait la main sur ma tête assoupie et mon père s'inquiétait. Le petit a mangé. 20 ans se sont écoulés. J'ai maintenant des chaussures. Je n'ai plus mal aux pieds. J'ai maintenant un chapeau. Mon visage n'est plus brûlé. J'ai maintenant une maison. Je ne sens plus le froid. J'ai maintenant une table pour manger, un lit, un matelas pour dormir et une voiture pour voyager. Mais dans ma tête, dans mes veines et dans mon cœur coule toujours le sang Zingaro.